unbreeding with my Okata Oriental. Je refuse totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi en ce début du week-end. La RDC a gagné une place dans le classement 2014 de l'ONG Save the Children sur les pays où il est plus difficile d'être maire. Le pays est passé de la dernière place à l'avant-dernière juste devant la Somalie. 5 indicateurs sont pris en compte de cette enquête, à savoir la santé maternelle, la mortalité infantile, le niveau d'éducation, la situation économique et les statuts politiques des mères et des enfants. Les pays occupant les 10 dernières places dans la RDC ont des résultats médiocres sur tous les indicateurs. Les conditions pour les mères et leurs enfants dans ces pays sont peu réjouissantes. Alors comment améliorer la condition des mères en RDC? Pour participer à cet échange, rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapu.net et appelez-nous aux 081 890 63 15. La réalisation de ce programme est signée Noëlla Luzitu. Dieudonné Nyangasa est à la technique. Gilles Lungembo coordonne et présente ce programme supervisé par Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Vivez deux jours d'exception au rythme du jazz à Kinshasa, les 31 mai et 1er juin au Théâtre de Verdure avec la 8e édition du festival Jazz Kiff. À cette occasion, nous célébrerons tous ensemble les 20 ans de carrière de Lokwakanza et fêterons le jazz avec aussi Richard Bonnard, Jean Gobal, Sarah Tavares et bien d'autres. Des concerts à retrouver prochainement sur Radio Okapi. Pour toute réservation de billets à ce festival, appelez le 081 059 98 88 ou allez sur www.jazzkiff.com.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons reçu beaucoup de messages de la part des auditeurs par rapport à cette thématique. Franklin Junior Mbombo, depuis Chikapa au Kasai Occidental. Moi, je pense que rien n'a changé. Le gouvernement doit encore fournir des efforts pour terminer la guerre à l'est du pays, qui est la cause principale de cette situation. Innocent Arma Kondoli, nous ne sortirons du lot que lorsque la guerre va se terminer à l'est de notre pays, car il est difficile d'être mère, c'est-à-dire accoucher, soigner, nourrir et éduquer dans un pays en guerre. Centurion Imbu, la RDC a peut-être gardé sa place, donc c'est la Somalie qui a trébuché pour perdre sa place, car en ce qui concerne le niveau de pauvreté, la non-scolarisation des jeunes filles, les grossesses non désirées, le mariage précoce, les violences sexuelles en RDC, tout est en hausse. Rien n'a changé. Comment la RDC peut gagner une place? Jean Baziere, depuis Bukavu, c'est un rapport qui met la puce à l'oreille des dirigeants congolais, ainsi qu'aux partenaires du secteur sanitaire. Pour améliorer la situation de la mère congolaise, il faut, avec la volonté agissante du gouvernement, mettre fin aux violences faites à la femme, décourager les mariages précoces, réduire la pauvreté ainsi que les conditions sanitaires inhumaines. Nous avons en ligne Franck qui est à Vienne, Alphonse Aharou et Maître Adria Kananga. Franck, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Votre point de vue.
Merci beaucoup pour la parole accordée. J'ai d'abord quatre petites questions. Après, je vais ajouter quelque chose. La première question, quels sont ces critères dont on tient compte au niveau de cette ONG pour faire un tel classement? Deuxième question, quels sont ces indicateurs au niveau interne dont nos autorités tiennent compte quand elles procèdent aux auto-évaluations de certains rendements gouvernementaux? Troisième question, là je me réfère au débat organisé il y a quelques jours sur le forum de l'UNESCO. Par rapport à la note nous accordée par l'UNESCO au forum de Mascate, n'y a-t-il pas la disproportion sur le social des enfants congolais et de leurs mères?
Voilà, Franck, Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Franck. Je crois que la réalisation pourrait relancer Franck pour qu'elle puisse poursuivre avec son intervention. Il est temps pour nous d'accorder la parole à Alphonse qui est à Arou. Alphonse, bonjour.
Bonjour Gér, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Gér, il est vrai que être maire en République démocratique du Congo est difficile. Et pourtant, notre loi fondamentale nous indique clairement que le Congolais ou la femme congolaise a droit à la santé, à la sécurité alimentaire et à un environnement sain. Donc, c'est l'État qui veille à la protection intégrale de ses citoyens. Et la femme congolaise en général, Gér, et la femme rurale en particulier, a beaucoup d'obstacles devant elle, notamment les travaux des champs, l'analphabétisme, la rareté des soins médicaux, la coutume, les viols, les violences sexuelles, les naissances indésirables et incontrôlées, la méconnaissance de ses droits au profit de ses devoirs, etc. Bref, la femme congolaise est abandonnée par son époux, par sa famille et même par les décideurs politiques. Elle est soucieuse à tout moment et misérable, ce qui amoindrit sa longévité. Pour soulager tant soit peu nos mères et ou nos sœurs qui perdent leur vie, soit celle des enfants pendant ou après l'accouchement, je souhaite ce qu'ils puissent dire. Il faudrait qu'il y ait une sensibilisation et une conscientisation sur la santé maternelle faite par les agents de la santé publique. Deuxièmement, qu'il y ait une facilité d'accès aux structures médicales de l'État avec un coût forfaitaire. Troisièmement, informer la femme sur ses droits de la maternité. Et il faudrait que les formations sanitaires soient augmentées dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Autre chose, Gér, c'est inculquer à la population la notion de planning familial aux mariés et même aux futurs mariés. Et que le ministère de la Santé ait la volonté de sauver la femme congolaise en augmentant la part des budgets alloués à cette fin et la distribuer équitablement sur toute l'étendue nationale. Autre chose, Gér, que les hommes sachent que ce sont eux qui engrossent, c'est nos mamans ou nos sœurs, et doivent veiller à protéger ces vies qui naîtront depuis la conception jusqu'à l'accouchement, c'est-à-dire les hommes doivent prendre leurs responsabilités devant les grossesses. Enfin, Gér, nos gouvernants doivent prendre également les responsabilités car toute personne a droit à la vie comme nous l'indique notre constitution. Et sauver une femme, c'est sauver toute une nation, mais également c'est grâce à la femme qui a la vie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Alphonse. Vous en appelez à l'attention, disons à l'implication de tout le monde, notamment la femme elle-même, l'homme qui doit normalement accompagner la femme dans ces combats, et aussi les gouvernants qui doivent mettre le moyen pour pouvoir atteindre les objectifs de protection de la femme dans tous les niveaux. Merci beaucoup Alphonse d'avoir appelé des Harou. Nous allons prendre Franck qui est à nouveau en ligne. Franck, vous êtes à Vienne, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Voilà, vous étiez à la troisième question. Vous étiez à la troisième question sur le forum qui a été organisé à Moscat.
Oui, je me disais, est-ce qu'il n'y a-t-il pas là une certaine disproportion par rapport à la note d'excellence que l'UNESCO nous avait donnée, parce que là on nous a présenté comme s'il y avait déjà beaucoup de progrès qui se sont réalisés. Et à la quatrième question, c'est par rapport à la taille de la RDC, par rapport à sa position géopolitique, par rapport à ses multiples potentialités humaines et naturelles, et surtout par rapport aux ambitions qu'elle doit afficher sur les plans national, international et mondial, nous, citoyens congolais, devions-nous vraiment nous contenter de ces pas qui venaient de se faire? Et puis des deux, je dis ceci parce que de temps en temps, quand nous intervenons de l'étranger, il y en a qui pensent qu'on parle à base des théories, des histoires abstraites. On vient au pays, on voit ce qui se fait là, on lit, on est en contact avec la base, on est en contact avec l'actualité du pays. Et quand on argumente, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de voir sur place. Nous savons que nous venons de très loin. Oui, avant de faire 1000 pas, on commence par poser les tout premiers. Nous sortons d'une guerre, d'une longue période de turpitude avec des rébellions, des guerres à répétition, des guerres imposées par-ci, par-là. Mais tout de même, quand on voit le social de nos citoyens, ça nous fait mal.
ça nous fait mal. Et je crois que quand on voit de tels classements, on doit encore rappeler une chose, que le social des citoyens doit être vraiment une des priorités du gouvernement. Par citoyen des Congolais, moi j'entends l'accès facile à la scolarité
des enfants congolais. Oui, Franck. Parce que autour de votre deuxième question, vous avez juste voulu savoir quels sont les critères sur lesquels, en fait, cette ONG se base pour publier un tel rapport. Alors, juste peut-être vous informer que lorsqu'on a présenté ces rapports, le directeur de développement des programmes et de la qualité de Save the Children avait même signifié que, au fait, Save the Children ne collecte pas ses propres données pour les calculs indices des mères. Alors, il se réfère plutôt aux données recueillies par des agences internationales dotées du mandat de ressources et du savoir-faire requis pour recueillir et certifier les données. Voilà, donc c'est par rapport à ces cinq indicateurs que je venais de donner tout à l'heure, à savoir la santé maternelle, la mortalité infantile, les niveaux d'éducation, la situation économique et les statuts politiques des mères et des enfants. Alors je ne sais pas, par rapport à ces indicateurs, vous observez comme nous, parce que vous avez dit que vous avez des informations. Alors aujourd'hui, quel est le regard que vous avez par rapport à ces indications et par rapport à l'évolution?
Oui, moi personnellement, je ne suis pas pessimiste. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Nous devons reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est fait, mais par rapport à la grandeur de notre pays, par rapport à tout ce que la RDC regorge, les potentialités humaines, les potentialités naturel par rapport aux ambitions que notre pays doit afficher. Donc pour moi, c'est encore maigre, c'est encore médiocre. Et si je dois comparer ces classements par rapport à ce qu'on nous fait voir au niveau des auto-évaluations internes, donc quelque part là, il y a des hiatus, il y a des disjonctions, des disproportions. Donc on dit l'UNESCO nous donne telle note, mais maintenant cette ONG nous classe encore dans le côté négatif. Donc quelque part là, ça ne colle pas.
Oui, Franck,
il faut noter un problème avec la santé des mères des enfants, Franck. C'est-à-dire que le social est encore malade. Mais quand on dit que dans ces pays le système éducatif progresse, ça signifie que la situation de la maman et des enfants devait déjà être repensée. Alors qui dit maintenant la vérité? C'est cette ONG ou bien déjà de ces forums? Quelque part là, je crois que ça ne colle pas avec les appréciations internes et ce que les autres disent encore de nous sur certains forums.
Oui, en croisant même tous ces rapports, je crois que il n'y a pas à faire un grand débat, Franck, parce que dans la mesure où même au niveau de forum, on a bien dit, on a encouragé le gouvernement par rapport aux efforts consentis pour l'éducation. C'est vrai qu'on n'a pas atteint. Nous avons reçu pour ce faire le ministre de l'EPSP qui a expliqué clairement, Franck, je crois que vous êtes intervenu même dans cette émission lorsqu'il acceptait qu'il reste encore beaucoup à faire. Il y a des défis à amener, mais quand il y a des efforts qui sont consentis au niveau, par exemple, des constructions des écoles, 1000 écoles par année. Et je crois que c'est à ce niveau-là que l'UNESCO a dit, avec des moyens des bords, avec des moyens propres du gouvernement, on a pu quand même faire quelque chose, un pas. C'est à ce niveau-là que l'UNESCO a pu encourager le gouvernement. Mais on n'a pas dit que la note, elle est totalement positive.
Merci beaucoup, mais je crois même à ce niveau-là, si j'ai encore bonne mémoire, le ministre avait dit que le programme c'est 1000 écoles par an. Mais jusqu'ici, il a dit on a déjà construit 200 écoles en 8 mois. Monsieur le journaliste, une année a 12 mois. Et si en 8 mois, au lieu de faire plus de 500 écoles, on fait 200 écoles, à ma place, quelle objection auriez-vous? Je crois que je suis congolais comme vous. J'ai eu la chance de vous rencontrer au studio. Vous m'avez vu parler, vous savez comment moi je raisonne. J'aimerais voir notre pays aller de l'avant. Donc je ne suis pas seulement, je ne critique pas pour détruire, mais je critique pour construire. Donc quand on dit 1000 écoles en une année, et en 8 mois on construit 200 écoles, je crois que 200 écoles ce n'est même pas encore la moitié.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir
appelé. Mettez-vous à ma place. Voilà. Qu'est-ce qui va vous dire ça? Vous allez lui donner quelle note? Moi je vous pose la question, vous le média, parce que vous êtes aussi l'avocat des citoyens, vous êtes aussi l'avocat des sans-voix. Si quelqu'un vous dit, en une année, je vais construire 1000, et en 8 mois, il fait 200.
Donc c'est un projet déficitaire.
Quelle objection auriez-vous en face de telle situation?
Donc il s'agit là d'un projet déficitaire.
Pardon?
Donc il s'agit là d'un projet déficitaire.
Non, je crois que vous le dites, mais moi je vous pose la question. Je n'aimerais pas que ça sorte seulement de ma bouche.
Voilà, donc si je comprends, si je m'en tiens à vos propos. Voilà, donc il y a un déficit. Il y a un déficit. Voilà, on a constaté. On a constaté avec vous, Franck, qu'il y a un déficit. 200 pour atteindre 1000, donc il y a un déficit de 800. Déjà, en 4 mois qui restent, bon, je ne sais pas si on pourra encore faire 100, et ça fera 300 sur les 1000. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne et surtout d'avoir contribué dans cette émission. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour, maître.
Oui, bonjour JR, bonjour à tous les amis auditeurs.
Alors j'ai dit tout à l'heure que la RDC a gagné une place dans les classements 2014 de l'ONG Save the Children sur les pays où il est le plus difficile d'être maire. Le pays est passé de la dernière place à l'avant-dernière, juste devant la Somalie. Alors les pays occupant les 10 dernières places, dont la RDC, ont des résultats médiocres sur tous les indicateurs. Alors les indicateurs, je l'ai dit, c'est la santé maternelle, la mortalité infantile, le niveau d'éducation, la situation économique et le statut politique des mères et des enfants. Alors comment améliorer la condition des mères en RDC pour vous?
Merci JR pour la parole. Je pense que nous autres qui sommes habitués à côtoyer les dames, et nous saluons donc le rapport de cette ONG, un rapport vraiment qui est crédible, contrairement à mon compatriote Franck qui venait d'intervenir. Lorsque nous prenons les deux rapports donc de l'UNESCO et celui-ci, vous sentez que les deux rapports ne se contredisent pas, mais les deux rapports se complètent. Oui, oui. Donc, c'est pour vous dire que lorsque moi j'ai eu les rapports, j'ai fait un peu d'étudier pour comprendre ce qui n'allait pas, mais je me suis rendu compte que donc pour chercher les véritables causes de ces handicaps, je suis tombé sur les trois principales causes qui font à ce qu'il y ait vraiment des difficultés dans notre pays pour devenir maire. Premièrement, j'ai... Et la cause la plus principale, c'est la pauvreté. La pauvreté, parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous voyons les fonctionnaires de l'État, lorsque nous voyons les agents de la SNCC, lorsque nous voyons toutes ces catégories, avec les maigres moyens qu'ils ont, ils ont la tendance de privilégier d'abord les hommes, parce que vraiment, lorsque vous prenez une bourse, c'est vraiment difficile à ce qu'on fait d'abord la scolarisation pour supporter la charge de tout le monde. C'est pour cela qu'ils se disent qu'il faut privilégier les hommes. Deuxièmement, la deuxième cause, c'est quoi? C'est l'injustice sociale. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que quelqu'un qui a son diplôme dans tel domaine et mais fonctionnant dans le domaine politique, et celui qui a les mêmes diplômes dans un autre domaine, et lorsque vous prenez leur salaire, c'est vraiment inadéquat. Vous n'avez pas vraiment l'idée de jeter un coup d'œil deux ou trois fois. Et cette injustice sociale fait à ce que les gens se retrouvent toujours dans des difficultés pour accomplir tous leurs besoins. C'est pour cela qu'ils ont aussi des choix pour se dire, par rapport à cette priorité, il faut que je puisse privilégier d'abord la nourriture, par exemple, pour ne pas faire face à certaines maladies. Et puis, troisièmement, donc la troisième cause, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la négligence de l'État congolais dans les domaines sanitaires. Aujourd'hui, hier, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines maladies qui n'existent presque plus sous notre cieux. Mais ces maladies-là refont surface dans notre pays. Je ne mérite pas nommément les citer. Donc c'est pour vous dire que lorsque nous prenons même le budget alloué dans les domaines de la santé, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment dérisoire. Et lorsque nous prenons nos partenaires qui évoluent dans ces domaines, nous nous posons la question, mais qu'est-ce que ces gens-là font comme travail? Maintenant, pour améliorer les conditions, je pense que c'est simple. Et ici, le gouvernement congolais a encore une fois de plus une matière, parce que chaque jeudi, la radio Okapi, au travers l'émission Dialogue intercongolais, il y a une émission qui évalue les institutions provinciales. Je pense qu'il y a ceux-là qui se trompent pour dire que non, en tout cas, notre bilan est positif, ainsi de suite, parce que mais lorsque vous prenez ce rapport, même le rapport précédent, vous allez vous rendre compte que le gouvernement a du pain sur la planche en ce qui concerne les sociales d'abord des Congolais, parce que ce n'est pas vraiment une priorité pour ce gouvernement, mais lorsque vous les suivez, ils se jettent des fleurs, ils se jettent des éloges, nous demandons, mais c'était à la population de faire tout ça. Donc le gouvernement congolais doit prendre les trois causes que je venais d'énumérer pour les renverser, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté, par exemple, et donc ça sera un moyen efficace pour que les gens se sentent vraiment des maires responsables, c'est-à-dire améliorer, donc lutter contre l'injustice sociale, parce que cette injustice a beaucoup de méfaits. Il y a même certaines personnes qui se croient vraiment écartées et qui se donnent même le luxe de prendre même les armes pour revendiquer cette injustice sociale. Et puis, troisièmement, ouvrir donc l'œil et les bons à ce qui concerne les domaines sanitaires, parce qu'on a toujours dit la santé n'a pas de prix. Donc moi je pense, lorsqu'on mettra en exergue donc les résolutions autour de ces trois causes principales invoquées,
merci beaucoup.
Une véritable lutte.
Merci beaucoup Maître Adrien. Pour vous, la solution pour améliorer en fait la condition de la mère en RDC passe essentiellement par ces trois pistes là. Donc vous avez parlé de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'injustice sociale et un regard attentionné de l'État congolais autour des secteurs de la santé. Merci beaucoup Maître Adrien de Kananga. Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gilles Lungembo.
Est-ce que vous partagez l'avis de Maître Adrien qui parle de la solution idéale qui passe essentiellement par la lutte contre la pauvreté, l'injustice sociale et le regard que doit avoir l'État congolais sur dans le secteur de la santé?
Oui, j'adhère totalement au point de vue de
Maître Adrien oui.
Et aussi à celui
de Franck.
Mais je voudrais dire, parce que j'ai entendu par un auditeur tout au début qui voulait lier cette situation au problème de guerre qui sévit au niveau de l'Est. Moi, je pense que c'est vraiment une ignorance ou une méconnaissance un peu de la situation. Avant la guerre, il doit quand même nous dire, avant la guerre, comment s'est présentée la situation. Juste pour moi-même intervenir au sujet, je voudrais dire que ce que nous sommes en train de se dire ici, ça fait partie des épiphénomènes qu'on ne doit pas dissocier aux autres. Par exemple, nous avions débattu sur Doing Business, nous avions débattu sur l'IDH. À travers tous ces classements, nous sommes toujours les derniers. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi aujourd'hui se dire que non, c'est lié à la guerre, c'est lié à je ne sais à quoi. C'est vraiment un problème de gouvernance. Comme nous l'avions toujours dit, c'est un problème de gouvernance, cette gouvernance c'est chaotique, cette gouvernance ici, cataclysmique, que nous connaissons depuis des décennies dans ce pays. Alors, vous savez, Gérard Lungembo, ce pays donne l'impression d'un pays qui ne veut pas, en fait, qui ne veut pas se conformer au diapason des autres pays. Comment les autres vivent, par exemple. J'ai été, par exemple, au Gabon. J'ai vécu dans ce pays pendant presque une décennie. Dans ce pays, il y a des programmes. Des programmes où le gouvernement alloue des fonds pour assister, par exemple, des filles mères. D'abord, la maternité est gratuite. Et de deux, pendant 6 mois environ, on assiste avec quelque chose comme plus de $100 américains chaque mois qu'on paye à ces femmes. Alors, vous voyez, dans ces pays, vous allez comprendre que l'hôpital est gratuit. Les soins médicaux dans les structures publiques sont gratuits. Alors, ici chez nous, qu'est-ce qu'on voit? La gestion même d'abord des fonds. Comment on gère le pays? Comment on gère les fonds publics? Au lieu qu'on puisse consacrer l'essentiel des moyens dans l'amélioration des conditions qui concourent à se conformer, par exemple, aux critères qui sont mis en exergue pour établir ce genre de classement, des statistiques. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? Par la folie des grandeurs, par je ne sais quoi, le matu-ju, on consacre des moyens colossaux qu'on ne dispose même pas suffisamment dans les investissements des prestiges. Vous allez constater un hôpital, qu'on dit un hôpital de centenaires, je ne sais pas, de cinquantenaires, où on va consacrer 100 millions de dollars américains. Mais Gérard Lungembo, c'est la folie. C'est la folie. Hein? 100 millions de dollars américains pour un budget maigre de misère, un budget de la honte, de l'humiliation. On consacre 100 millions de dollars américains.
Oui, Maurice, est-ce que n'est-ce pas là une action pour arriver quand même à améliorer les conditions des maires en RDC? Parce que quand vous avez un hôpital viable et un hôpital, un centre de santé qui pourrait, en fait, fonctionner sur un standard universel, un standard international, je crois que c'est quand même un moyen pour améliorer aussi la situation de la maire.
Mais Gérard Lungembo, vous allez constater, aujourd'hui, allez voir dans... Ben, peut-être que vous n'avez pas cette chance d'aller dans à l'intérieur du pays, dans les coins et les coins de notre pays. Vous allez comprendre des femmes enceintes à terme qui vont parcourir
de
plus
km.
De 50 km, plus de 30, plus de 100 km pour aller chercher une maternité. Vous comprenez? Et ici, on va construire un hôpital. C'est le musée ici. Depuis que cet hôpital a été inauguré, dites-moi, on a vu les gouverneurs là de l'Équateur, c'est arrivé ici, qu'on a évacué à Jussès. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il est resté là pendant combien de temps? Et par après, on a réalisé qu'il n'y a rien.
Bon, je ne sais pas.
C'est vraiment un tombeau blanchi qu'on nous a présenté là-bas.
Oui, Maurice.
Et ce gouverneur actuellement, il est où?
Oui, vous avez appris avec nous qu'il devait rentrer vite en Afrique du Sud, chez son médecin, qui le suit généralement, hein, pour un contrôle médical.
Donc, je voudrais dire, sans même verser dans les débats de cette histoire, ça demande un autre débat, je voudrais dire que le pays, ici, n'a pas besoin d'investissement, de prestige. Nous n'avons pas besoin qu'on nous construise. Allez voir ce qui se passe en Galiémon. Vous pensez que vraiment on avait besoin de construire encore des édifices ou d'équiper les centres qui existent en médicaments, en produits qui devaient permettre aujourd'hui qu'on puisse sortir de
cette situation? Alors Maurice, alors quelle est la piste de solution pour vous? Parce que c'est vrai, le débat est là, le constat tout le monde connaît, l'état des lieux n'est plus un secret. Alors pour améliorer maintenant la condition des maires à RDC, vous, si je vous étais posé cette question, quel serait le panneau indicateur des solutions que vous donnerez?
Moi, je pense que cela passe par la priorisation de... pendant la redistribution de fonds, redistribution du patrimoine national, on doit tenir compte d'abord des conditions de vie primaires. Comment on peut éviter que les gens puissent perdre leur vie à cause de
l'accouchement.
Lorsqu'ils accouchent, il y a des gens qui meurent. Pendant qu'on peut observer dans certains pays, il y a 0%. Il y a 0,1%, donc c'est minimisable les femmes qui accouchent encore pendant ce siècle ici.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ce qu'on propose, c'est la redistribution patrimoniale équilibrée.
Merci beaucoup Maurice d'avoir appelé de Kinshasa et surtout d'avoir contribué dans cette émission 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue. La RDC a gagné une place dans les classements 2014 de l'ONG Save the Children sur les pays où il est le plus difficile d'être maire. Le pays est passé de la dernière place à l'avant-dernière, juste devant la Somalie. Comment améliorer alors la condition des maires à RDC? Cédric Lopez, vous nous avez écrit, vous avez dit, ça fait rire, nous venons de la dernière place pour être placé à l'avant-dernière. Félicitations. Cédric Luntala, le gouvernement doit faire un effort pour assainir les institutions sanitaires en leur dotant des personnels qualifiés, car ici en Mbandaka il y a beaucoup de centres qui ne répondent pas aux normes et qui ne sont que des petits cabinets pour faire des interventions volontaires de grossesse. Voilà. Et puis il y a Bénédiction Migo qui nous écrit de Bukavu, que nous recevons d'ailleurs, qui est déjà en ligne. Bénédiction, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
bonjour, monsieur Gilles.
Alors, quand vous nous avez écrit, vous avez dit dans votre message que pour relever ces grands défis, le gouvernement congolais, à travers son ministère de la Santé, doit élaborer une politique claire qui donnera à la femme l'accès gratuit à une maternité sans risque. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par politique claire?
Oui, par politique claire, monsieur Gilles. Oui, je remercie d'abord pour la parole. Moi, je suis Bénédiction Minigo, je suis membre du club d'auditeurs de la radio Okapi, ici à Bukavu. Par politique claire, je dirais, notre gouvernement devrait élaborer une politique claire. Par politique claire, moi je crois, notre gouvernement devrait construire des hôpitaux dans des coins reculés de la République. Car dans les milieux ruraux, c'est très grave. C'est très grave, monsieur Gilles. Il y a même pas des routes qui relient les hôpitaux et les centres urbains. C'est très grave et ça fait toujours des problèmes et nous déplorons ça. Mais notre pays ne mérite pas ça. Nos dirigeants peuvent vraiment se prévaloir de cette place gagnée, mais ce n'est pas ça, nous ne méritons pas ça. Nous voulons que notre pays soit le deuxième, le troisième, pourquoi pas le premier. Un paradoxe, c'est déjà un pays qui est mal riche, un pays qui a tout, mais sa population continue à souffrir dans la misère. C'est pas ça.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bénédiction. Là, si je comprends bien, s'il faut que j'interprète un peu votre intervention, vous rejoignez pratiquement à Maître Adrien qui parlait de trois principales causes. Et si jamais on voulait bien renverser la tendance, tout doit passer essentiellement par la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'injustice sociale et aussi un regard attentionné du gouvernement sur le secteur de la santé. Merci beaucoup. Joseph, vous êtes à Bukavu également, donc nous y restons. Bonjour et bonne arrivée sur les ondes des Radio Okapi.
Oui, bonjour. Merci de m'avoir accordé la parole et de tout ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Je pense que si nous faisons l'analyse qui est tellement efficace, on se demande les pays va où. Dans tous les coins, dans toutes les périphéries, soit dans toutes les provinces. Vraiment, il n'y a pas aucune amélioration. Si vous partez au niveau de l'école et au niveau sanitaire, on se demande où va le pays. Puisque moi, je voulais me pencher sur les deux cas. Le premier cas, c'est sur le plan sanitaire. La manière dont vous voyez comment tout va, et on se demande où va vraiment le pays. Puisque au niveau sanitaire, allez voir comment nos femmes sont soignées. Puisqu'on disait que soigner une femme, c'est soigner toute une société. Or, les femmes ne sont pas soignées. Jusqu'à présent, c'est le fils au Congo pour que la femme puisse engendrer, elle doit payer. Dans des autres pays voisins ici, la maternité est tellement gratuite. Alors, quand nous suivons nos autorités et disent non, tout va bien au Congo, on se demande est-ce que c'est réel. Et si vous regardez, si vous fixez les yeux partout ailleurs, vraiment aucune amélioration. Alors, sur le plan scolaire, et c'est vraiment ce chaotique et précaire. Puisque la manière dont nous étudions, allez voir, la fois passée, on s'est proclamé partout ailleurs que l'école primaire, c'est gratuite. Est-ce que c'est réel? Si vous partez dans les différentes écoles, est-ce qu'il y a vraiment quelques privilèges pour les filles et pour les femmes? Il n'y a absolument rien. Alors, allez voir l'année prochaine, je veux bien qu'on va commencer avec le nouveau système LMD. Alors, le pays, mais il y a beaucoup d'étudiants qui terminent au marché, mais il n'y a pas d'emploi.
Oui, Joseph. Tout cela. Oui, Joseph, pour votre information, c'est vrai, nous avons tous suivi le discours de docteur Arsène Niangora, le directeur de développement des programmes et de la qualité de Save the Children. Lorsqu'on présentait ce rapport, il a même dit, en fait, il a donné quand même quelques chiffres vous donner. Il a justifié en fait le changement de la place par le fait que depuis 1990, la RDC a réduit les taux de mortalité maternelle de 4% et que la mortalité des enfants de moins de 5 ans a baissé de 15% en 8 ans. Donc, par rapport à ces avancées, raison pour laquelle nous avons eu à gagner ne fût-ce que cette place. Voilà, donc pour dire qu'il y a quand même des indicateurs qui ont changé, il y a quand même des avancées.
Oui,
c'est encouragé.
Oui, c'est sûr et certain, nous ne refusons pas. Mais il faut que les pays puissent faire grand chose. Et puis,
voilà.
Les gens souffrent, messieurs. Si vous arrivez dans les différents villages, y compris ici à Bukavu, vous allez vous demander, nous ne sommes plus au 19e siècle. On est déjà au 21e siècle, au moment où les gens souffrent de la malaria, tout ça, quoi, chocour. Avec les pays, vraiment, on ne peut pas s'y attendre à vivre, vivre dans l'espoir. Et promesse, c'est jusqu'à quand.
Merci beaucoup, Joseph, d'avoir appelé de Bukavu. Là, nous sommes au sud Kivu. Christophe, vous êtes à Goma, au nord Kivu. Bonjour et bonne arrivée sur les ondes des Radio Okapi.
Bonjour monsieur, je suis monsieur Christophe Sambika.
Vous avez suivi vos prédécesseurs, alors quel est votre point de vue?
Je les ai suivis. Moi je voudrais d'abord dire que beaucoup d'amis ont évoqué les raisons, ils ont donné 2, 3, 4, 5 raisons, et moi je voudrais faire une synthèse des synthèses par rapport à ce qu'ils ont donné. Je dis ceci, que ils ont donné, oui, des raisons, mais je fais la symbiose du tout. Et cette symbiose donne 2. Je parle d'abord de la guerre, qui est une raison de taille, et aussi le manque d'emploi. Mais quand vous lisez bien le rapport de Save Children, ce rapport reflète réellement la santé politico-économico-socio-sanitaire de la République démocratique du Congo. Pour une simple bonne raison que aujourd'hui, avec la peur, d'abord, j'ai évoqué la guerre, je dis, avec la guerre aujourd'hui, quand il y a guerre, il n'y a que les hommes qui sont au front.
Oui, Christophe, cet élément a été rejeté en bloc par un auditeur tout à l'heure, Maurice, qui a dit ça ne peut pas être une raison parce qu'avant la guerre...
Écoutez, ça c'est un argument qu'il a donné, mais ce n'est pas la raison. Lorsque quelqu'un dit quelque chose, vous journalistes, vous avez l'intelligence pour disséquer ce qu'il dit. Mais quand un auditeur moins intelligent dit quelque chose, mais il ne faut pas laisser passer ces histoires-là. Nous sommes ici pour corriger les erreurs que nos prédécesseurs ont commis.
Oui, c'est un débat, débat.
C'est pour cela que...
Voilà, il y a deux points de vue, chacun peut mettre son point de vue, Christophe. Mais avec toujours un langage un peu compliqué.
Voilà, c'est pour cela que souffrez que je ne puisse pas être avalé par ce que lui a dit.
Voilà, allez-y.
Je ne suis pas convaincu par ce qu'il a dit.
Allez-y. Vous avez dit la première chose.
Je voudrais dire ceci. Avec la guerre, celui qui a dit, il a dit, moi je vais dire autre chose. Et encore faudra-t-il que les scientifiques critiquent ce que chacun va dire. Comprenez que...
Allez-y.
Alors moi je dis que la guerre, c'est une raison noble et de taille pour que les pareilles réalités puissent se refléter sur surface. D'abord, lorsque vous parlez de la guerre, il n'y a que les hommes qui sont au front, naturellement, même s'il y a des femmes militaires. Mais combien de pourcents des femmes sont comme militaires aujourd'hui en France? Et même si elles sont militaires, combien on peut envoyer au front pour aller faire la guerre? Je crois que si on parle en termes de pourcentage, c'est plus de 90% que des hommes qui sont là. Et lorsqu'on extermine une bonne quantité ou un bon nombre de militaires, regardez la suite. La conséquence naturelle et logique, ça c'est un. Il y a beaucoup de veuves qui sont restées, qui n'ont pas de mari, qui peuvent leur prendre en charge. Moralité, c'est quoi? La femme belle qui se laisse faire et surtout qu'elle n'a pas quelqu'un qui peut lui prendre en charge, mais elle va se laisser faire. Un mari qui a 2 femmes et qui a besoin de prendre une 3e puisqu'elle est belle, veuve, mais elle va prendre l'autre, la femme de l'autre militaire qui est partie. Ça, c'est 2. Je parle de l'emploi. Et l'emploi concerne spécifiquement et uniquement en bon nombre, en termes de pourcentage, je parle. 90 également, le gouvernement. Je parlais de la politique économico-socio-sanitaire du pays. Mais tout ça va vers qui? Vers le gouvernement. Le gouvernement, souffrez que je vous en parle, là, monsieur.
Allez-y, Christophe.
Oui, le gouvernement, depuis toujours, vous entendez qu'on dit qu'il est irresponsable par excellence. Le gouvernement irresponsable par excellence de la République
je crois.
On dirait que... Non, un instant, monsieur.
Allez-y. Je voulais juste vous aider.
Pouvez-vous souffrir que je vous dise quelque chose?
Non, allez-y. Je voulais juste vous relancer, Christophe, parce que c'est ça le principe de l'émission. Donc, quand vous parlez, donc on peut vous relancer aussi, c'est pas un problème. Allez-y, Christophe.
C'est pas un problème, oui.
Allez-y, allez-y.
Oui. Terminez. Vous pouvez. Oui. Dites ce que vous pouvez, vous vouliez bien dire quelque chose. Je ne peux pas vous asphyxier. Dites ce que vous vouliez dire pour que je puisse continuer.
Voilà. Donc, pour vous, vous pensez que le gouvernement doit encore fournir beaucoup d'efforts pour améliorer la situation des maires en RDC. Donc, il y a beaucoup à faire.
Je vais citer. Parce que vous avez encore beaucoup d'autres auditeurs.
Oui, allez-y. Merci, c'est gentil,
le
hein, Christophe.
Gouvernement, oui. Le gouvernement, rapidement, je vais dire ce que je veux. Le gouvernement est l'acteur par excellence de l'irresponsabilité des conséquences que toutes les femmes vivent aujourd'hui, mon frère. Pouvez-vous vous imaginer dans un état où vous avez autant de docteurs, autant de médecins, autant de licenciés, autant, et qu'il n'y a que 4%, 4% de lettrés. Je ne parle pas de semi-lettrés ou des lettrés, des intellectuels donc, qui ont d'emploi. Et les 96, je parle de 96 puisque nous avons été colonisés par les Belges, pour que tout le monde comprenne. 96 sont chômeurs. Mais écoutez, même un intellectuel qui a la bonne conscience, la moralité, peut se traduire pour nous, non. Puisque la vie est sacrée, mon ami. Comment pouvez-vous vouloir que quelqu'un avec qui vous avez terminé les études, la même année, peut-être moins intelligent que vous, puisqu'il a des affinités avec je ne sais qui est mon petit gouvernement aussi.
Voilà. Alors Christophe, vous avez épuisé vos minutes. Je crois qu'on ne peut pas vous laisser vous éterniser là à parler. Hein, Christophe, vous avez quand même eu suffisamment de temps, donc on va accorder quand même la parole aussi à d'autres personnes. Permettez-nous, en tout cas, s'il vous plaît, Christophe. Guillaume est à Yakoma, à l'Équateur. Guillaume, bonjour.
Bonjour Radio Capi, comment ça va?
Très bien, merci. Et vous, un petit coucou à tous ceux qui nous suivent à Yakoma, dans l'Équateur.
Oui, merci beaucoup, on vous attend. Merci à Isidro, merci à Professeur Rental, merci à l'autre. Je salue Vier Dédé, Mangaboko depuis Isidro. Je crois que JR, c'est regrettable. Vraiment, c'est une honte. Je crois que la RDC, le pays, notre pays où nous aimons beaucoup, ça ne mérite pas ce classement. Donc, c'est un classement de haute. C'est un pays comme la RDC où les gens disent qu'ils sont composés du gouvernement de technocrates. Mais je regrette, j'ai un souci du fait qu'on n'a même pas eu quelqu'un qui devait dire qu'il est technocrate pour venir peut-être répondre à ces questions. Alors, je crois que je devais très vite poser une petite question. J'y ai. Je crois qu'il n'y a personne pour répondre. À quoi les autres pays là nous dépassent, hein?
Voilà.
La Tanzanie, le Kenya, le Rwanda,
on n'est pas le mieux placé pour répondre à cette question, mais de toutes les façons, dans les jours à venir, on fera peut-être ces débats avec la ministre des Genres et Familles pour nous faire une idée sur les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer en fait la condition des maires en RDC. Merci beaucoup Guillaume d'avoir appelé de Yakoma à l'Équateur. On va prendre Dorcas qui est à Lubumbashi. Dorcas, vous allez garder la ligne. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent aussi nous rejoindre en composant les 081-890-6315.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous entamons les derniers quarts d'heure de cette émission. On va accorder la parole à Dorcas tout à l'heure. Mais il est temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que la RDC a gagné une place dans les classements 2014 de l'ONG SF The Children sur les pays où il est le plus difficile d'être maire. Le pays est passé de la dernière place à l'avant-dernière, juste devant la Somalie. Alors il faut noter que le pays occupant les 10 dernières places, dont la RDC, ont des résultats médiocres sous tous les indicateurs. J'ai parlé des indicateurs, la santé maternelle, la mortalité infantile, le niveau d'éducation, la situation économique et le statut politique des mères et des enfants. Alors comment améliorer la condition des mères en RDC? Dorcas, vous nous avez rejoint. Merci d'avoir appelé de Lubumbashi. Bonjour Dorcas.
Bonjour JR, bonjour à tous les inconditionnels de parole, aux auditeurs, pourquoi pas nos chers techniciens. Salut à tous.
Voilà, vous avez la parole, votre point de vue Dorcas.
Oui, JR, bien sûr que l'État a une lourde responsabilité sur la mortalité maternelle, bien sûr, j'y arrive, mais je vois aussi que la femme elle-même doit se prendre en charge. Aujourd'hui, nous nous disons que nous sommes marginalisés. Nous, femmes, nous sommes marginalisés. Alors que nous-mêmes, nous faisons à ce que nous soyons marginalisés. À titre d'exemple, si on organisait des débats scientifiques, au lieu que la femme, la fille soit dans ce débat scientifique, la femme se retire. Et quand il y a des problèmes, elle n'est pas intéressée, elle se dit marginalisée, alors que nous-mêmes, nous sommes à la base. Pas parce que nous ne serons pas victimes de problèmes qui nous arrivent. Nous sommes conscients que nous-mêmes, nous nous marginalisons. Peu importe que nous pouvons parler de la parité, bien sûr, mais nous, femmes, nous sommes marginalisées. Mais comme je l'ai dit au début, que l'État aussi a une lourde responsabilité. Il doit revoir dans tout ce qu'il a comme planification, comme piste de solution pourvu que cette dernière ne se sente pas marginalisée. Concernant l'éducation, bien sûr, je voulais dire concernant l'enseignement, l'État se contente juste de revoir la loi cadre qui est passée de celle de 1986 et celle que l'État a revue les 4 ou les 14 février de cette année. Mais il ne se contente pas de revoir les infrastructures scolaires. À Katumbalesa, par exemple, il y a de ces écoles où les enseignants sont en grève. Les élèves se rendent au quotidien à l'école, mais les enseignants sont en grève. Les enseignants.
Voilà, merci beaucoup, Dorcas. Oui. Merci, Dorcas. Voilà, demain, je ne peux pas vous continuer parce qu'il y a encore Edgar qui est là. Dorcas, vous avez parlé. C'est vrai que nous restons dans les sujets avec la condition des mères à RDC. Quand on parle des mères, on fait aussi allusion aux filles. Du côté éducation, on sait qu'il y a des efforts qui sont menés pour que les filles, en tout cas toutes les filles, aille à l'école. Je crois que conjointement au niveau de l'UNESCO et en tant que partenaire traditionnel avec le gouvernement congolais, il y a 5 ou 10 ans, si ma mémoire est très bonne, il y a cette opération qui a été initiée pour que on arrive réellement à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement avec l'opération Toutes les filles à l'école. Edgar, vous êtes à Kananga. Bonjour. Voilà, Edgar, vous êtes avec nous. Bonjour. On va prendre plutôt Kaouni qui est à Kalemi. Kaouni, bonjour et merci de nous rejoindre.
Bonjour Longembo, bonjour également à tout le monde qui est branché aux ondes des radios de la paix. J'ai une mélancolie de voir la RD Congo se situer à ses postes, mais on ne peut pas dire que nous sommes négativement notés. Je crois que les choses vont se rétablir mollo. Bon, notés, je voulais dire que nous sommes un grand pays qui vient d'une crise totale, d'un déficit budgétaire et des différentes situations, surtout mélancoliques et éphémères. Et ici, on remarque que ceci ont été causés par certaines hypothèses telles que primo. Je vois il y avait présence de la convoitise pécuniaire, les certains de nos dirigeants. Secundo, manque de miséricorde les uns envers les autres. Et tertio et enfin, incoïncidence parmi nos pères égard à l'arrogance intellectuelle et autres. Ici, JR, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que, par exemple, la majorité, ce n'est pas toute chose qui est là, c'est ONI, ce n'est pas toute chose pour l'opposition, ça devient ON. C'est pourquoi j'encouragerai nos autorités de se coïncider d'une façon profonde, efficace et adéquate, et puis aussi reprendre les histoires qui nous intercalaient et nous causaient beaucoup de problèmes. J'aimerais que notre pays soit un pays rasséréné, pépère, paisible. Et ce n'est pas tard, il est encore grand temps pour progresser, car les Britanniques disaient « It's never too late to mend », il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous remercie.
Je vous en prie, Edgar, d'avoir appelé des Kananga. Nous prenons... Kakaouni, vous êtes à Kalemi. On va prendre Mathieu qui est à Kananga. Mathieu, bonjour.
Oui, merci bien pour la parole, M. Gère. En fait, Mathieu à Kananga. À propos de cette thématique que nous débattons ce jour, moi, je sais que devenir maire reste une question préoccupante dans notre pays. Surtout dans nos villages, territoires, voire même dans nos villes urbaines, où moins de femmes enceintes ne sont pas sensibilisés comme il se doit. Et leur prise en charge est tellement difficile. D'abord, manque de moyens financiers dans les différentes familles, les recours aux féticheurs traditionnels pour les soins. Mais dans tout ça, c'est l'État qui porte une grande responsabilité dans ce cas précis. Pas de bons appareils de test pour nos femmes enceintes, pas de prise en charge comme il est recommandé en matière de la santé. Ça, c'est parce que comme il y a déjà, l'État a déjà démissionné à sa tâche ou a laissé la place aux centres de santé qui font n'importe quoi, cause principale de la mortalité que nous constatons. Comme enceintes au Congo, c'est un cas d'épouvantage. Moi, je propose d'abord la sensibilisation de nos femmes à ce sujet, à partir de nos villages, jusqu'au sommet, d'aider, qu'elles acceptent des appareils sensibles de la technologie actuelle. Ça, c'est capable de servir nos femmes enceintes. Et la suivi. Quant à nos femmes enceintes, il faut bien manger, malgré la circonstance actuelle où l'argent appartient au plus fort. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mathieu. Il faut également noter que le pouvoir public national, les pays donateurs, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile ont l'obligation de veiller à ce que les mères et les enfants qui vivent dans des contextes de crise aient les meilleures chances de survivre et de jouir d'une bonne santé, tel que avait conclu donc les rapports de Save the Children lorsqu'on les présentait la semaine dernière. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir appelé de Kananga. Chitoko, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole.
En fait, moi, je veux un peu plus rapidement parce que je sais que l'État est trop court.
Ouais, il nous reste
le gouvernement congolais a une grande responsabilité. C'est l'État qui a tout car le sol et le sous-sol appartient à l'État congolais. Aujourd'hui, quelqu'un peut poser sa chambre, mais quand il y a un problème, c'est l'État qui s'impose pour dire vous tous, vous êtes sous notre tutelle. Lorsque l'État ne paye pas les gens, ne crée pas d'emploi, comment est-ce que quelqu'un peut prendre bien en charge sa femme? C'est seulement deux volets. Créer l'emploi et payer bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés, plusieurs sociétés, si nous voulons les énumérer. Aujourd'hui, il y a les sittings de grands tonnages partout. Nous suivons ça à travers les ondes. Nous regardons tout ce qui se passe. Imaginez-vous 20 mois sans être payé. Comment est-ce que ces gens peuvent prendre bien en charge leurs femmes, leurs enfants, parce que parmi leurs enfants, il y a les filles qui sont appelées futures mères. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont des projets. Moi, quand je vais être comme ça, je vais amener ma fille à étudier dans de bonnes écoles, je vais l'envoyer quelque part. Mais au moment de la rentrée scolaire, il n'y a pas de salaire. Ça fait 20 mois que les parents n'ont pas payé. Il va dire, bon, je laisse même ma fille dans cette école, voyons voir l'année prochaine. L'année prochaine, c'est la même situation qui revient. Finalement, la fille ne va pas bien suivre l'enseignement ou ses études telles que voulait son père ou ses parents. Alors, l'État congolais doit créer l'emploi et payer bien ses agents. Parce que je m'imagine, quand nous disons que tout repose sur les épaules du chef de l'État congolais, qu'il accepte que nous puissions dire ça, comment est-ce qu'on fait le sitting? Dans notre pays, les plus petits même, quand il y a des manifestations, on tolère ces manifestations-là, on ne disperse pas les gens violemment. C'est pour que vous puissiez voir ce qui se passe vous-même, le président de la République, et résoudre ces problèmes. Vous, le conseil du président de la République, vous, le conseil du premier ministre, ingérez-vous dans de telles situations. Écoutez-nous. Nous parlons. Répondez.
Voilà, donc je le tiens.
Voilà. Quand on fait de telles situations, vous venez, vous répondez, c'est-à-dire vous faites partie du comité dont on demande de partir.
Voilà, Chiteko, ça c'est aussi un débat. On va faire quand même des émissions autour des entreprises publiques. Hein. On va évaluer quand même la marche de certaines entreprises depuis qu'il y a cette réforme des entreprises publiques. Nous allons y revenir très prochainement, hein, Chiteko. Mais nous retenons que vous parlez de l'emploi. On va créer des emplois, on va bien payer les gens et ça pourrait résoudre ce problème. On va améliorer la condition des maires en RDC. Fidèle, vous êtes à Colosi et Faustin à Kikwit. On va vous accorder 30 secondes à chacun, hein. En tout cas vous m'excuserez. Fidèle, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on a pris assez de temps, donc les temps fait défaut. Vous avez 30 secondes.
Ok, 30 secondes. Je parle juste de la situation des maires. Mm-hmm. Parce que parfois privée des autres aspects. Je pense que de ce côté-là, il faudra que l'État puisse voir comment créer des structures d'assistance à des nombreuses familles en difficulté, qui vivent vraiment en deçà de ceux de pauvreté. Parce qu'il faut des structures réelles d'assistance. Vous avez toujours entendu, chaque fois qu'un député passe quelque part, parmi les gestes qu'il pose, c'est payer les frais juste pour l'hospitalisation quelque part. Mais ça doit aussi interpeller l'État. On doit créer des structures d'assistance. Puisque lorsqu'il y a des femmes qui doivent accoucher, qui doivent aller à la maternité ou au soin médicaux, mais qui n'ont pas des moyens, ça fait partie des cas de violence plus graves qui sont ignorés. Donc l'État doit voir dans ce sens-là des structures d'assistance réelles au lieu de laisser ces femmes comme si elles sont abandonnées et par les familles et par leurs responsables propres, tout ça. Bon, j'avais beaucoup à dire, mais le temps...
Voilà, les temps fait défaut, le temps qu'on accorde aussi 30 secondes à Faustin. Merci beaucoup, Fidèle, c'est gentil de votre part. Faustin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gilles, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, on n'a plus assez de temps. On aurait bien voulu vous accorder un peu un temps maximum pour que vous puissiez expliquer. Bon, dans 30 secondes, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la thématique?
Oui, merci, Gilles. Moi, je dirais tout simplement, c'est une honte pour nous, peuple congolais. Vous comprenez, Gilles, j'ai attendu d'autres... aux auditeurs, se contenter de la place qu'occupe cette décision. Mais on est devant un pays en guerre. Hein? Un pays de guerre. Je dis bien la guerre. C'est pas comme la guerre que nous attendons de gauche à droite ici, en guerre. Non, la Somalie est un pays de guerre.
Voilà, merci beaucoup, Faustin. Faustin, merci. Voilà, merci beaucoup Faustin, merci à Dédonné qui a réalisé cette émission aux côtés de Noëlla Luzitou. C'est par ici que donc nous mettons un terme à ce programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Le 25 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'Afrique. Cette journée commémore l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine. Quelles retombées les programmes socio-économiques intégrateurs ont-elles eu sur la vie des peuples en Afrique en général et en particulier à RDC? Nous en parlons lundi. Vous pouvez déjà prendre l'inscription pour participer à cette émission, donc vous connaissez bien nos numéros de contact. À très bientôt.